Bonsoir. Situation sécuritaire dans les provinces du Nord Kivu et Ituri. 14 personnes ont été tuées lundi 24 janvier à Luna Samboko, territoire d'Irumu en Ituri, par des présumés rebelles ougandais ADF. Selon des sources locales, ces miliciens ont également incendié des maisons et emporté des biens de la population. Au Nord Kivu, des affrontements sont signalés entre les FRDC et des présumés rebelles du M23 depuis lundi dernier dans la localité de Kanombe, territoire de Rutshuru. Pendant ce temps, une vive tension est toujours observée dans certains coins de la ville de Beni où des groupes de jeunes tentent de manifester pour exiger la fin de l'état de siège. Quelle évaluation faites-vous de l'état de siège 8 mois après son instauration en Ituri et au Nord Kivu? Nous en parlons ce soir avec Jean-Baptiste Mwindo Kasekwa. Il est député national élu de Goma au Nord Kivu et secrétaire général adjoint de l'ECID, parti membre de la coalition Lamuka. Il est aussi membre de la commission défense et sécurité à l'Assemblée nationale. Jean-Baptiste Mwindo Kasekwa, bonsoir.
Bonsoir Madame Kelly, bonsoir à tous les co-débatteurs, bonsoir à tous les auditeurs de la radio Okapi.
Maître Juvenal Munubo Mubi, député national élu de Walikale au Nord Kivu, il est cadre de l'UNC, parti membre de l'Union sacrée de la Nation. Il est aussi membre de la commission défense et sécurité à l'Assemblée nationale. Maître Juvenal Munubo, bonsoir.
Bonsoir Madame Kelly, bonsoir aux autres intervenants et bonsoir à tous les auditeurs de Radio Okapi.
Professeur Chobera Genunga, professeur à l'université de Kisangani, spécialiste dans les domaines des études de sécurité, des géopolitiques et des sociologies militaires. Professeur Chobera Genunga, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes très nombreux auditeurs de Radio Okapi à réagir au thème de ce soir. C'est le cas de Yann Kiabunga, depuis Rutshuru au Nord Kivu. Nous pouvons dire qu'avant l'état de siège égale pendant l'état de siège, aucune avancée sur le plan sécuritaire. Au contraire, la situation devient chaotique. Nous demandons la fin de l'état de siège. Doube Mwenemboka, depuis Beni au Nord Kivu, à mon avis, l'idée d'instaurer l'état de siège en soi est bonne pour restaurer l'autorité de l'état dans ce coin, mais l'échec est la résultante de l'impréparation des animateurs, la non-définition de leurs tâches et le maintien des unités militaires affairistes dans cette partie du pays. À Rutshuru, dans la province du Nord Kivu, vous nous suivez sous la 95.3. Et pour vous qui êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radiokapi.net. Bienvenue à tous dans votre magazine.
Dialogue entre Congolais. Les débats politiques, c'est dans Dialogue entre Congolais. Tous les jours, acteurs politiques, décideurs sociaux et journalistes informent, expliquent et débattent de l'actualité au quotidien sur nos antennes, mais jamais sans vous. Car Dialogue entre Congolais, c'est aussi vos questions et vos réactions. Dialogue entre Congolais, de lundi à jeudi, de 19h15 à 20h et sur Internet, sur www.radiokapi.net.
Je l'ai dit, en Ituri, 14 personnes ont été tuées lundi par des présumés rebelles ADF à Luna Samboko dans le territoire d'Irumu. Selon des sources locales, ces miliciens ont incendié des maisons et emporté des biens de la population. Face à cette énième attaque contre des civils sur l'axe Komanda Luna, des organisations de la société civile et notables locaux appellent les autorités à lancer enfin des opérations militaires conjointes FRDC armées ougandaises dans cette région. Cela pour mettre fin aux exactions des assaillants contre les civils. Martial Kizabiamungu pour les détails.
Ces présumés rebelles de ZADEF en provenance du Nord Kivu ont traversé la rivière Samboko à Ituri il y a 2 semaines pour se diriger vers les localités de Masesele, Mungali et Pontu. Selon des sources sécuritaires, une vingtaine d'entre eux ont investi Luna Samboko pendant plusieurs heures en tirant des coups d'effet. Dans cette confusion, 14 personnes sont abattues, affirment plusieurs sources concordantes. C'est mardi, des organisations de la société civile et des notables de Wallace et Vonkutu et Basili parlent et ne décolorent pas face à ce qu'ils qualifient de tuerie de trop. Selon eux, cette situation est due à l'absence des opérations conjointes entre le FRDC et l'armée ougandaise contre ces rebelles qui errent dans cette région, mais sans être inquiétés. Contactez les commandants de FRDC sur l'axe Komanda Luna. Le général Mugisa précise que cette zone où cette attaque a eu lieu est du ressort de l'opération Sokola de Beni. Nous n'avons pas réussi à avoir les coordonnateurs des opérations conjointes FRDC-UPDF actuellement en mission en Ouganda. Bounia, Martial Kizabiamungu, Radio Okapi.
Et au Nord Kivu, une psychose s'observe à Rugari Centre ce mercredi. C'est à environ 35 km au nord de Goma, dans le territoire de Rutshuru à la base. Une opération offensive enclenchée par les FRDC à partir de Rugari Centre contre les présumés rebelles du M23 qui ont attaqué depuis deux jours les positions de Nyesisi et Ngugo à 13 km au nord-est de Rugari. Du coup, toutes les activités sont paralysées à Rugari Centre. Denise Lukeso, qui est dans la région, nous décrit la situation.
Les FRDC ont lancé depuis 9h ce mercredi une contre-offensive à partir de Rugari Centre. C'est dans le but de déloger les assaillants qui se seraient retranchés vers Ngugo, ce après l'attaque lundi dernier vers 22h du village Nyesisi par les rebelles qu'on croit les combattants du M23. L'attaque qui aurait fait des victimes et des blessés dans le rang de l'armée et le déplacement massif des populations d'au moins 7 villages riverains du parc selon les sources locales. C'est notamment le village Nyesisi, ici, Ruanga, Ngugo, Ndondi, Mugwata, Butaka et une partie de Kigarama. Les habitants ont fui les uns vers la paroisse catholique de Rugari, alors que les autres ont trouvé refuge à Kabaya et Kanombe. Le chef de groupement de Rugari parle d'une situation confuse. Toutes les activités sont paralysées à Rugari Centre. Les écoles ont dû retourner les élèves à la maison et le trafic routier Goma, Rutshuru est de temps en temps interrompu à partir de Rugari Centre au moment où les FRDC lance des tirs selon nos sources. La population de Rugari, elle, est dans une alerte et craint que la situation ne dégénère à des éventuels affrontements. Depuis Rugari Centre, dans les Rutshuru, Denise Lukeso, Radio Okapi.
Merci Denise Lukeso pour ce reportage. Maître Juvenal Mounoubo-Moubi, député national élu de Walikale au Nord Kivu, vous êtes cadre de l'UNC, parti membre de l'Union Sacrée de la Nation. Vous êtes aussi membre de la Commission Défense et Sécurité à l'Assemblée nationale. La situation sécuritaire dans le Nord Kivu et dans l'Ituri reste préoccupante. D'un côté, vous avez les ADF qui continuent à massacrer, piller, brûler la population civile. De l'autre côté, on parle d'une attaque des présumés rebelles M23 dans le Rutshuru, sans compter les Maïmaï qui sèment aussi la désolation dans cette partie du pays. Maître Juvenal, comment on peut analyser cette situation sécuritaire qui devient de plus en plus inquiétante malgré l'instauration de l'état des sièges?
Merci beaucoup, madame. Évidemment, la situation est inquiétante. Donc, je partage des constats de ceux qui estiment que la situation est inquiétante. Le tableau n'est pas reluisant, hein. C'est un tableau assez sombre parce que les massacres continuent à Beni, à Nitori. Et il y a aussi des nouveaux modes opératoires quand on voit ces attaques à la bombe des kamikazes dans la zone de Beni, à Beni précisément. Et puis, la résurgence aussi des forces qu'on savait déjà être vaincues. Les cas du M23. Et là, ça nous pousse quand même à nous interroger sur la responsabilité du Rwanda et de l'Ouganda, parce qu'on sait que les leaders, que ce soit de la branche militaire, que ce soit de la branche politique du M23, avaient trouvé refuge dans ces pays. Ces pays qui ont de très bonnes relations actuellement avec Kinshasa, en croire les sources officielles, c'est-à-dire à croire les autorités du gouvernement. Et donc la situation est inquiétante, mais je dois quand même noter qu'il y a des efforts qui sont en train d'être fournis. Les efforts donc du gouvernement de l'Union Sacrée, des efforts qui vont dans le sens de restaurer l'autorité de l'État. C'est-à-dire il y a les déploiements des militaires sur terrain. Les membres du gouvernement se soumettent aux auditions des parlementaires. Souvenez-vous qu'il y a eu une série d'auditions par la Commission de Défense et Sécurité. Un rapport fort a été élaboré avec des recommandations, notamment le changement de la chaîne de commandement, plus de moyens pour les militaires, des moyens logistiques et soldes des militaires qu'il faut payer régulièrement.
Est-ce que ces recommandations ont été prises en compte, Maître Juvenal?
Alors, le problème c'est ça, mais déjà avoir un gouvernement qui est ouvert à toutes ces critiques, c'est déjà quelque chose. Maintenant, il faut qu'on arrive à mettre en œuvre toutes ces recommandations-là. Et les parlementaires, le Parlement aussi doit pleinement et davantage jouer son rôle. En plus d'organiser les auditions, nous avons une commission en charge du suivi de l'application des lois et des recommandations. Et maintenant, cette commission doit se mettre rapidement en œuvre dès la rentrée parlementaire pour voir dans quelle mesure on peut pousser le gouvernement à agir. Donc, je suis tout à fait d'accord avec ceux qui estiment que le tableau est sombre. La situation est inquiétante. Mais il y a ceux qui disent, oh, il faut mettre fin à l'état de siège, mais ils sont pas en mesure de proposer une alternative. Mais aussi, il faut dire la vérité, c'est que mettre fin à l'état de siège sans résultat, ça équivaudrait à une sorte d'échec de la gouvernance forces sécuritaires.
Alors, depuis l'instauration de l'état de siège, Maître Juvenal Mounoubo, quel résultat a obtenu sur terrain 8 mois après?
Oui, je sais par exemple qu'il y a eu quelques arrestations. Il ne faut pas minimiser quand même les efforts qui ont été fournis. Il y a eu même un chef des renseignements, des ADEF, qui a même été arrêté. Mais la question, qu'est fait la justice militaire, l'auditorat, les travaux de l'auditorat? Donc, c'est vrai, il y a des choses qui sont réalisées, mais il reste des choses à réaliser. Je l'ai toujours dit, les FRDC arrivent parfois à démanteler quelques bases des ADEF. Mais le problème, c'est qu'il faut consolider les positions. Il ne suffit pas d'arriver à une victoire, et il ne faut pas gagner une bataille, il faut arriver à consolider les positions. Donc, dès que les FRDC récupèrent une position, un sanctuaire des ennemis, eh bien, il faut y déployer la force nécessaire et consolider, c'est-à-dire éviter que cette base, que ce soit Madina, Mayangose, Mapobo et d'autres, ne retombe encore entre les mains des assaillants.
C'est ce que la population déplore, le fait de ne pas consolider les positions récupérées par les FRDC. Pourquoi, selon vous, cela ne se fait pas?
Il y a d'abord un problème de moyens. Il faut quand même dire la vérité, notre armée n'a pas de moyens énormes. Et pourtant, les défis sur terrain imposent des moyens importants. Et alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut trouver des moyens. Il y a plusieurs pistes qui ont été proposées, mais il faut les explorer. C'est ça, c'est le rôle maintenant du gouvernement. Il faut voir toutes ces recettes de l'État qui échappent dans la caisse de l'État, ces fuites de capitaux qu'on a souvent signalées, et faire en sorte que cela volumine le budget de la défense. Évidemment, les budgets des institutions aussi, on devrait voir qu'est-ce qu'on peut faire, soit opérer des ponctions, et ainsi de suite. Mais aussi, il faut une bonne utilisation de peu de moyens qui ont été mobilisés. Il faut encore vérifier s'il n'y a pas de militaires qui s'adonnent au business, ou s'il n'y a pas dans la chaîne de paiement, des détournements, ou dans les approvisionnements, s'il n'y a pas des choses qui échappent au circuit normal. Et ça, c'est important. Il faut évaluer aussi cette coopération avec les Ougandais. Il faut, parce que les Ougandais, ils ont des renseignements sur les ADF, et ils ont lancé les opérations militaires avec les FRDC. Je crois que le moment est venu quand même pour évaluer. Moi, je n'étais pas chaud. Je n'encourageais pas trop ces opérations, mais le moment est venu pour savoir où est-ce qu'il y a eu du succès, où est-ce qu'il y a eu des échecs, parce qu'on ne peut pas évoluer sans une évaluation mi-parcours. Il faut aussi arriver à une très très bonne collaboration entre les civils et les forces de sécurité pour améliorer les requêts des renseignements. Parce qu'il me semble que jusque-là, cette symbiose, cette complicité-là n'est pas encore ce qu'on aurait souhaité.
Jean-Baptiste Mwindo, c'est quoi? Député national élu de Goma au Nord Kivu et secrétaire général adjoint de l'ECID, parti membre de la coalition Lamuka. Vous êtes aussi membre de la commission défense et sécurité à l'Assemblée nationale. Quelle évaluation vous faites de l'état des sièges 8 mois après son instauration en Ituri et au Nord Kivu, où on continue à déplorer des morts, des massacres, des pillages des populations civiles par des groupes armés?
Avant toute chose, madame, permettez que je présente mes condoléances à la famille de l'officier qui a été tué dans la résistance par ces éléments de M23 à Rutshuru, mais également aux familles de tous ces militaires qui sont en train de payer de leur vie pour essayer d'apporter leur contribution. Mais la situation se détériore davantage. Nous avons été à Bunia dans une mission d'évaluation conduite par le ministre de la Défense. Et à l'occasion de cette évaluation, la délégation de la société civile et même celle des chefs coutumiers ont clairement dit à la mission d'évaluation que la situation pendant l'état de siège était pire qu'avant l'état de siège. Et personnellement, j'ai fait un monitoring des nombres de civils tués pendant l'état de siège, madame. Pour toute l'année 2021, j'ai enregistré 2339 civils tués, dont 1866 rien que pendant l'état de siège et 373 avant l'état de siège. Lorsque je compare ces chiffres au total de personnes tuées dont nous avons réussi à prélever les données. À 2020, c'était 1569. À 2019, c'était 1070. Cela montre que les chiffres de 1866 tués pendant l'état de siège nous démontrent que la période de l'état de siège a été la plus meurtrière de toute la période au cours desquelles les Nord Kivu et l'Ituri vivent sous ces tueries. Vous avez parlé de 14 personnes qui ont été tuées à Irumu,
dont 7 ont été enterrés avant-hier à Oicha et ils sont arrivés dans un état très très critique. Ces ZADF ont découpé les têtes des individus, les corps étaient d'un côté et les têtes entassées dans un sac. Vous vous imaginez ces degrés de cruauté. Mais au même jour, madame, ce que vous avez peut-être omis de dire, c'est que dans la même nuit du 23 au 24, 5 civils ont été tués à Katoto, dans le territoire de Djougou. Avant cette date-là, le territoire de Mambasa venait de faire tout un mois de tueries jour pour jour. Et la société civile a relevé au moins 83 corps de civils tués pendant cette période-là. Nous ne parlons pas de ces tués dans la ville de Goma, où, sous la barbe des autorités de l'état de siège, un réseau de bandits communément appelé Phénomène 40, au cours de la seule semaine dernière, 4 jeunes ont été tués, rien qu'à Goma. Ne parlons pas de Masisi. Avant-hier, 4 agents de l'ONG internationale TIEFAM ont été enlevés avec leur jeep emporté jusqu'à ce jour. Bref, la situation est chaotique. Je ne peux pas oublier ce qui s'est passé, la semaine dernière à territoire de Rutshuru. Au même moment que les M23 sont en train d'attaquer les FATC dans la zone de Rumangabo, mais dans la zone de Binza, à Nyamilima, les FTLR ont décidé d'interdire les habitants d'accéder à leurs champs sous la condition que chaque paysan paye 20 000 francs congolais pour accéder à son champ. Vous vous imaginez la situation dégénère en dépit de l'instauration de l'état de siège. La situation dégénère et les mouvements citoyens dont la Lucha, Filimbi et autres, Veranda Mutsanga et tous les acteurs de la société civile ont raison d'exiger que cet état de siège prenne fin. Malheureusement, nous nous rendons compte que c'est contre ces citoyens-là que l'état de siège montre tous ses biceps.
Jean-Baptiste Kassekwa, on retient que vous êtes parmi ces personnes qui demandent la fin de l'état de siège. Mais il y a une question que le député Mounoubo a posée ici. Vous demandez la fin de l'état de siège, c'est quoi l'alternative?
Madame, personnellement, à date du 10 mai 2021, soit 4 jours après l'instauration de l'état de siège, j'ai introduit une question orale avec débat pour demander que le Premier ministre vienne dire la vérité au peuple congolais. Étant donné que les mêmes causes produisent les mêmes effets, l'opération Zoruba et Ituri, lancée le 21 juin 2019, venait de connaître un échec. L'opération Grande Envergure, lancée le 31 octobre 2019, venait d'aboutir à un fiasco. Pourquoi? Parce que il y avait un problème de détournement des fonds alloués d'opération. Des fonds détournés à partir de Kinshasa. Il y avait un problème d'effectifs fantômes. Il y avait un problème de trafic de munitions au sein même des FARDC. Il y avait un problème de trafic de tenues. J'ai relevé que lorsqu'on nous dit qu'à Beni, il n'y a que 21 000 militaires et que sur le terrain, on vient se rendre compte qu'il n'y a que 7 000, la différence d'environ 14 000 pour lesquels chaque mois, l'État congolais débloque des tenues, des munitions, les armes destinées à ces 14 000 sont vont où?
Jean-Baptiste,
nous l'avons reconnu nous-mêmes, madame Kéline. Je termine par là. Dans le rapport que l'Assemblée nationale a adopté le 29 septembre, la troisième recommandation, nous avons demandé que le gouvernement présente un plan de sortie de l'état de siège, étant donné les résultats mitigés, et que l'état de siège n'était pas destiné à durer le plus longtemps possible. Dans les rapports que le ministre de la Défense a produit, j'ai vu les fuites dans les réseaux sociaux. Mais lui-même demande la requalification de l'état de siège parce qu'il a reconnu l'échec. Il doit avoir le courage d'élever l'état de siège et de doter l'armée de moyens conséquents, de relancer le mariage, la collaboration entre la population et l'armée, parce que l'état de siège
crée
un bras de fer entre la population et l'armée. Or, on ne peut pas gagner cette guerre sans une synergie similaire.
Jean-Baptiste Kassekwa, vous demandez à ce qu'on puisse doter l'armée des moyens conséquents. On l'a fait avant l'état des sièges. On a vu les résultats sur terrain. Ils n'étaient pas satisfaisants. C'est peut-être la raison qui a poussé le chef de l'État à décréter l'état des sièges dans le Nord Kivu et l'Ituri.
Non, madame. L'état des sièges, comme je venais de le dire tantôt, est considéré comme un moyen pour certains officiers militaires veulent de s'enrichir sur le dos de nos populations. Les autorités de l'état des sièges belges sont préoccupés par ce qu'ils appellent la maximisation militaire des recettes. Voyez par exemple la Bounia. On nous signale que la morgue de l'hôpital est contrôlée par des policiers aujourd'hui parce que lors des tensions, des altercations entre les motards et l'état de siège, des motards qui résistent contre l'imposition des plaques, la même chose qui constitue la priorité de l'autorité urbaine à Goma, la même chose, la priorité de ces autorités, la même chose à Rutshuru, c'est concevoir des stratégies qui leur permettent de remplir les poches. Alors
mais,
que
mais
si on lève les cas de siège, on redéfinit des conditions pour que les moyens parviennent directement à des officiers de bonne volonté qui sont sur le terrain, comme cela a été le cas lors de la guerre contre le M23, eh bien, les militaires ont dit au ministre que j'étais présent, en un mois, ils sont capables d'anéantir les ATF
si
le gouvernement a la bonne volonté et prend des dispositions pour leur faire parvenir effectivement le moyen, au lieu que ce moyen soit détourné à partir de Kinshasa.
Professeur Chobert Aguenonga, vous êtes professeur à l'université de Kisangani, spécialiste dans le domaine des études de sécurité, des géopolitiques et de sociologie militaire. La situation sécuritaire dans le Nord Kivu et l'Ituri toujours préoccupante. Certains Congolais demandent même à ce qu'on puisse lever l'état des sièges. Professeur Chobert Aguelonga, faut-il maintenir ou lever l'état des sièges?
Merci pour la parole accordée. Je pense que la question est loin d'être celle de savoir s'il faut maintenir ou lever l'état des sièges. Mais en revanche, et la question auquel on doit se poser est celle de savoir quelle est l'approche la plus adaptée aux dynamiques en sécuritaire à l'œuvre. Alors j'en profite pour dire évidemment que l'état de siège n'était pas un mantra, l'état de siège n'était pas une formule dont l'invocation en suffirait à résoudre la crise sécuritaire dans les provinces du Nord Kivu et en Ituri, certainement. Alors, et aujourd'hui, il y a aussi manifestation il y a contre les mesures sécuritaires de l'état de siège. C'est simplement parce que l'on relève un paradoxe, et à plus forte raison que ces mesures ne parviennent absolument pas à enrayer la crise sécuritaire, ce qui constitue pourtant l'objectif ultra prioritaire de l'état de siège, et cela ne parvient pas non plus à contribuer à la sécurisation efficace des populations et de leurs biens, ce qui constitue pourtant le deuxième objectif de l'état de siège.
Qu'est-ce qui explique, selon vous, la persistance de l'insécurité malgré l'instauration de l'état de siège?
Alors, force est de souligner que le tout premier facteur, c'est le déficit, voire la quasi-inexistence de planification avant que l'état de siège soit décrété. En d'autres termes, on n'a pas pu identifier le facteur qui expliquait l'état de siège, le source d'approvisionnement des groupes armés qui constituent la menace sécuritaire à l'Est, les complicités dont ces groupes armés bénéficient aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays et quelles devraient être les mesures adaptées à cela. Et par ailleurs, je voudrais revenir sur la question de présumer ADEF. Et là, on note une mauvaise coordination et c'est très important de le souligner lorsque vous regardez la zone où opèrent les présumés ADEF. Cette zone est située à cheval entre le province du Nord Kivu et de l'Ituri, mais le constat est plutôt malheureux. Lorsque les opérations sont intensifiées au Nord Kivu, eh bien, les ADEF trouvent refuge en Ituri. Et voilà, et lorsque les militaires essayent d'intervenir face au débordement des ADEF en Ituri, et tantôt leurs combattants prennent la direction de Mambasa, et ainsi de suite. Donc, il y a une mauvaise coordination dans cette région. Par ailleurs, je relève la superposition des commandements depuis la proclamation de l'état de siège. Lorsque vous lisez l'ordonnance relative à l'état de siège, eh bien, la coordination des opérations militaires est confiée au gouverneur militaire. Or, la loi portant organisation et fonctionnement de l'armée et confère cette tâche à la région militaire et à la troisième zone de défense qui supervise toute la partie est du pays. Donc il y a une superposition de commandement qui fragilise évidemment le commandement dans cette partie du pays. Et je voudrais aussi revenir sur la déficience de moyens logistiques et des effectifs. Lorsque l'on va sur le terrain, l'on s'aperçoit que nos forces armées sont pratiquement dégarnies de moyens logistiques pouvant faciliter ce que nous appelons la projection des troupes, c'est-à-dire l'intervention des militaires en cas de menace. Alors, il y a une question à laquelle j'aurais bien voulu que le député Juvenal Munobo réponde, mais je n'ai pas malheureusement été satisfait. Pourquoi est-ce que l'armée ne parvient pas à consolider la position? Il a parlé de la déficience de moyens, mais je voudrais davantage parler de la déficience des effectifs. C'est ce qui rend l'armée davantage défensive que proactive. Donc lorsque l'armée intervient, ce n'est pas pour contrôler, n'est-ce pas, les régions passées sous son contrôle, mais simplement pour éloigner les menaces sécuritaires, parce que les effectifs sur le terrain ne permettent absolument pas à l'armée de se déployer simultanément dans toutes les zones sous menace des différents groupes armés. Je voudrais parler de la déficience de la prise en charge des militaires. Quand vous allez dans toutes les zones placées sous état de siège, il est déconcertant de constater qu'il y a des barrières érigées ça et là. Une organisation de la société civile vient d'alerter il y a deux jours à Ituri qu'il y avait plus de 30 barrières érigées par les militaires. Et toutes ces barrières visent à rationner les civils. Pourquoi les militaires doivent-ils rationner les civils? C'est à cause, évidemment, de l'absence d'une prise en charge efficace. Je termine par la mauvaise coordination entre les opérations militaires et le PDDRCS qui, du reste, ne dispose d'aucune stratégie d'opérationnalisation. Donc, si opération militaire y avait, on devait s'attendre à ce qu'il y ait la reddition, n'est-ce pas, de groupes armés. Mais si les rebelles se rendaient, où est-ce qu'ils allaient être cantonnés? Qui est-ce qui allait les prendre
en charge? Mais professeur,
il y a eu une mauvaise coordination.
On a vu beaucoup.
Il y a eu donc une mauvaise conception de l'approche holistique ou de l'approche globale de la sécurité.
Pendant cet état de siège, professeur Chaubert, on a vu beaucoup de groupes armés se rendre. Est-ce que ce n'est pas un point positif de l'instauration de l'état de siège?
Alors, moi, je ne sais pas s'il faudrait parler des groupes armés qui se rendent ou ce sont quelques combattants des groupes armés qui se rendent. Parce que notre diagnostic démontre clairement que depuis que l'état de siège a été proclamé, aucun groupe armé n'a été démantelé. Par contre, de nouveaux groupes armés se sont ajoutés. Vous parliez tantôt de présumer au M23, mais avant l'état de siège, on ne parle pas de présumer M23. Donc c'est une nouvelle donne qui vient de s'ajouter, qui témoigne évidemment que le principal objectif de l'état de siège n'a pas été atteint, celui de neutraliser, celui de mettre un terme aux groupes armés qui sont pourtant les principaux facteurs ou même les principaux responsables de la crise sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo.
Merci professeur. Je vais vous redonner la parole, professeur. On va prendre ces auditeurs qui sont nombreux à nous appeler sur notre standard. Maître Juvenal, on va prendre cet auditeur qui nous appelle depuis Bounia dans la province de l'Ituri pour vous.
C'est David Soumaïli Moussafiri depuis Bounia dans la province d'Ituri. Nous déplorons la continuité des massacres dans notre pays sans qu'il y ait vraiment une solution adéquate à cette situation. En effet, pendant qu'on instaurait l'état de siège, on nous disait que c'était en guise d'essai. Mais maintenant, ça fait 8 mois depuis l'instauration et les gens continuent à mourir en cascade comme si c'était ça la solution qu'on cherchait. C'est pendant l'état de siège où il y a plus de massacres qu'avant. Mais malheureusement, on se contente de garder la même position. En outre, c'est en plein état de siège qu'on a assisté à l'entrée des UPDF ougandaises sur le sol congolais, qui jusque-là ne nous rassure en rien quant à la sécurité et continue à être appuyé par le silence du gouvernement. À mon humble avis, je pense que le gouvernement ne veut tout simplement pas avouer son échec et retirer l'état de siège, qui ne vaut rien pour la sécurité du territoire national. Il faut avoir le courage de tourner la page voire même changer de livre, si cela peut nous être utile pour trouver la solution. Nous sommes vraiment fatigués de voir le sang de nos compatriotes couler. L'état de siège doit être levé pour chercher la solution autrement. Merci.
Maître Juvenal, brève réaction sur ce que pense
quelqu'un,
David.
Qui voit la situation se détériorer. Jamais j'ai dit que la situation était bonne. Le tableau est très mauvais. Hein. C'est un tableau sombre. Mais il ne faut pas considérer que le problème, c'est l'état de siège. Parce que c'est ça, en fait, la tendance. Il y a une certaine opinion, il y a des acteurs, notamment de l'opposition, qui veulent faire accréditer comme thèse que le problème, c'est l'état de siège. Non, le problème n'est pas l'état de siège. Le problème, c'est l'insécurité, c'est l'activisme des groupes armés, l'activisme des ADF, l'activisme des FDLR, des groupes Maïmaï, et tout ça.
Justement, cet état de siège a été instauré pour mettre fin à l'activisme des groupes armés, de tous ces groupes armés.
Non, l'état de siège est un moyen. Vous voyez, c'est un moyen, c'est une approche que le président Tshisekedi a proposée. Et maintenant, si cette approche trouve des difficultés dans son implémentation,
c'est quoi l'objectif?
C'est qu'il faut faire, il y a des recettes. Il y a déjà eu des propositions pour rationaliser l'état de siège. Hein? Il y a ceux qui parlent des réqualifications. Il faut se concentrer là où il y a des problèmes, parce que lorsque vous voyez l'action des administrateurs des territoires, ils font presque tout maintenant. La gestion des conflits coutumiers, des conflits fonciers et tout. Et pourtant, on devait se concentrer dans les zones chaudes, les zones à problème. Et pour répondre au professeur, parce qu'il a parlé d'un problème d'effectif, c'est vrai, notre armée a besoin de recruter davantage. Mais le problème, c'est que l'armée ne motive pas. Hein. Quand on voit les conditions de vie de ceux qui sont déjà, qui opèrent sous le drapeau, il n'y a pas suffisamment de motivation. Mais il faut avouer qu'il nous faut davantage de militaires. Mais aussi, il y a des militaires qui sont encore concentrés dans les grands centres, hein, dans les grandes villes, ça peut être Kinshasa, Lubumbashi. Il y a moyen d'opérer quelques aménagements en termes de déploiement ou de redéploiement. Comme ça, on concentre l'essentiel de nos militaires dans les zones à problème. Je ne parle pas de l'essentiel de nos officiers, parce que la situation à Bounia, il y a quelques jours, je crois que ça n'a pas grandement évolué, c'est qu'il y avait beaucoup, beaucoup d'officiers dans cette zone, sans voir sur terrain les changements de la situation. Et donc, encore une fois, il faut distinguer le problème. Il faut d'abord identifier le problème. C'est l'insécurité grandissante, persistante. Et puis, il ne faut pas considérer que l'état des sièges, c'est ça le problème. Alors, s'il y a des acteurs politiques qui veulent faire passer ces messages à l'opinion, je crois, ça ne relève vraiment pas de la responsabilité. L'état des sièges, c'est juste un moyen, une approche. Alors, il se peut que cette approche ne remporte pas tellement de succès. Il y a moyen de rationaliser l'approche.
Merci.
En appliquant les recommandations qui ont été proposées par l'Assemblée nationale. Changement de la chaîne de commandement, payer régulièrement les soldes des militaires, voir tout ce qui détourne encore les soldes des militaires et les mettre à la disposition de la justice. Voilà, c'est le travail qu'il faut faire. Il existe des rapports, il existe des recommandations.
Merci, maître Juvenal, vous l'avez...
Mettre
vous
fin l'avez... à l'état de siège maintenant, comme les demandes de mon collègue Kachekwa, et une certaine opinion... Eh bien, ça veut donc dire remplacer les autorités militaires par les anciennes autorités civiles. Est-ce que l'arrivée ou le retour des anciennes autorités civiles...
Jean-Baptiste Kasekwa, on va prendre aussi pour vous cette réaction qui nous vient de Bukavu.
Je réponds par le nom de Maguenin Kakumbu Jules. Je vous appelle depuis la ville de Bukavu. L'état de siège dans les deux provinces congolaises a un bilan de 50% à mon avis. Car depuis que ce système est instauré dans ces deux provinces, les cas des atrocités sont un peu maîtrisés malgré quelques cas qu'on enregistre ces derniers jours. L'état de siège reste pour moi un moyen de mettre fin à cette insécurité qui a déjà plus de 10 ans dans ces zones. Je demanderai au gouverneur militaire qui dirige ces provinces de renforcer les stratégies ensemble avec le gouvernement congolais et la population qui doit jouer un rôle dans cette lutte. Et pour moi, les jeunes qui veulent manifester pour mettre fin à l'état de siège devraient d'abord réabonner leur patience, car on ne peut pas mettre jamais fin ou donner un calme dans une seule nuit, là où l'insécurité a déjà régné plus de 10 ans. Multiplions ensemble les efforts pour mettre fin à l'insécurité, car il ne revient pas seulement aux autorités politiques ou militaires de mettre fin à l'insécurité. Tous ensemble, nous pouvons mettre fin à cette insécurité. Merci beaucoup.
Jean-Baptiste Kasekwa, brève réaction.
Non, Jules n'est pas informé de ce que même à ville de Goma, là où nous avons la présence du gouverneur militaire, du vice-gouverneur qui est policier, d'un maire de ville policier, colonel de son état, des deux colonels comme bourgmestre de commune, le phénomène 40 voleurs bat son plein. Et rien que la semaine passée, 4 jeunes gens ont été tués, d'autres sont kidnappés, sous la barbe de ces autorités de l'état de siège. Lorsque ces autorités sont incapables de maîtriser même un phénomène de criminalité urbaine de 40 voleurs, comment espérer que ces gens-là vont maîtriser les phénomènes des FDLR à Rutshuru, des M23 à Masisi, des ADF à Beni? Non. Le jeune gens qui réclame la fin de l'état de siège ne demande pas un miracle. Figurez-vous, madame, que en réponse aux journées villes mortes, les gouverneurs du Nord qui vous répondent par une moquerie et il dit organisez-en même autant que vous voulez, ils voudraient voir des villes mortes tout au long des mois. C'est l'autorité de Beni qui dit pour nous, les chiens qui aboient, nous allons les caser. Il menace que toute personne qui voudrait protester contre ces tueries dont nous avons parlé ici, avant de sortir pour une manifestation, il faut d'abord bien regarder le visage de ces membres de famille parce que votre place est au cimetière. C'est ça le discours de l'état de siège. Pourtant, les populations de Biakato dans le Mambasa ont organisé des villes mortes. Dieu merci, on a changé les commandements qui étaient dans cette zone. Et aujourd'hui, la population soutient le nouveau commandant du bataillon qui a été déployé. Et on voit des résultats. Donc, l'état de siège, étant donné que ces autorités qui ont été nommées et le régime lui-même constituent un affrontement, un défi contre les populations, n'est pas un mécanisme approprié. Ils vont lever l'état de siège de manière à bénéficier de la participation des élus provinciaux, des notables locaux, des opérateurs de la société civile et tout le monde pour constituer un front commun. Mais lorsque les députés nationaux, qui eux-mêmes avaient refusé d'accorder la loi d'habilitation au mois de juin, mais ils viennent se redire le 24 décembre, par complaisance, ils autorisent au gouvernement de proroger sans contrôle l'état de siège. Et au même moment, nous assistons à une répression violente des tentatives de contrôle citoyen. Ce bras de fer ne peut jamais nous conduire à la paix.
Professeur Chobert Aguelonga, on va prendre aussi pour vous cette réaction qui nous vient de Kinshasa.
C'est John Bak Ngalamulume depuis Kinshasa. Pour ne pas dire que le bilan est négatif, osons de dire qu'il est encore mitigé. La bonne volonté d'éradiquer les groupes armés en proclamant l'état de siège est à saluer. Mais quand les choses ne semblent pas beaucoup marcher, c'est mieux de changer de stratégie. Il s'agit de faire le choix entre sursoir l'état de siège ou chercher d'autres stratégies pour accompagner celui-ci, afin que le résultat soit satisfaisant.
Professeur Chobert Aguelonga, que pensez-vous du point de vue de John Ngalamulume?
Absolument, il a parfaitement raison. Nous ne devons pas nous éterniser sur le débat de savoir si le état de siège constitue la mesure adaptée à la crise sécuritaire ou c'est bien le contraire. Moi, je crois qu'il faut froidement regarder la réalité en face. Donc, et à mon humble avis, je crois qu'il y a nécessité de restructurer tout simplement la chaîne de commandement parce que il s'avère que beaucoup d'officiers déployés dans cette région se sont transformés véritablement en affairistes. Il faut renforcer le moyen et logistique en faveur des unités combattantes et renforcer les effectifs comme je le disais tantôt qu'il y avait une déficience d'effectifs. L'amélioration de la prise en charge des militaires, c'est fondamentalement important pour les mettre à l'abri des dérapages liés notamment à des tracasseries. Et il faut promouvoir la collaboration entre les militaires et les civils. Donc il faut repenser l'approche civilo-militaire. Mais
avec toutes ces propositions
diplomatiques aussi certainement, parce que les menaces sécuritaires à l'est de la RDC ont des ramifications extérieures. Et pour y faire face, il faut certainement aussi se déployer sur le front diplomatique. Et le PDRCS doit évidemment être inséré au cœur de stratégies sécuritaires, non pas comme une approche une approche complémentaire, mais plutôt comme une approche qui s'accommode, qui vient plutôt améliorer l'approche militaire. Et enfin,
professeur,
il faut mettre un terme, couper donc la chaîne d'approvisionnement des miliciens, des groupes armés en armes et en munitions.
Vos propositions, vous pensez qu'elles pourraient améliorer la situation sécuritaire dans la partie est de la RDC? Ça sera aussi votre conclusion?
Je rappelle une fois de plus que je fais abstraction à l'état de siège, mais je voudrais plutôt que
ça pourrait améliorer la sécurité.
Efficace. Donc, ces propositions permettront de revigorer, de renforcer d'améliorer, voilà, c'est le thème que je cherchais, d'améliorer l'approche sécuritaire de manière à ce qu'elle s'adapte efficacement aux dynamiques internes et externes de menaces sécuritaires dans la partie est de la République démocratique du Congo.
Merci, professeur Chobert Aguenonga. Maître Juvenal Mounoubo, vous avez suivi les propositions de Maître Chobert qui ne sont pas très loin de ce que vous avez proposé aussi, améliorer la prise en charge militaire, restructurer la chaîne des commandements, renforcer l'armée avec les moyens logistiques. En 30 secondes, votre conclusion.
Alors, j'aimerais que lors du prochain Conseil des ministres, que le Premier ministre ou le Président de la République, en tout cas celui qui va présider les prochains conseils des ministres, je voudrais qu'il mette sur table les recommandations adoptées par la Commission de défense et sécurité et qu'en conseil des ministres, qu'on puisse examiner chaque recommandation et qu'on prenne des mesures nouvelles pour requalifier, pour rationaliser l'état de siège, pour donner plus de force à l'état de siège. Et ça nous permettra d'espérer d'avoir des résultats.
Merci, Maître Juvenal Mounoubo. Jean-Baptiste Kasekwa, avant de vous donner la parole, pour conclure, on va prendre deux auditeurs qui nous ont écrit. Mathieu Kakaya, depuis Kananga au Kasai Central, le bilan de l'état des sièges instauré dans la partie est de la RDC est mitigé dans la mesure où, dès son instauration, cet état des sièges nous a apporté des avantages sur le plan sécuritaire. La plupart des bastions des ADF ont été récupérés par les forces loyalistes, voire même certains chefs des troupes capturés. Cependant, nous constatons que la force qu'avait l'armée congolaise est en train de s'affaiblir pour des raisons inconnues. Ainsi, les actions des rebelles se multiplient dans la partie est du pays. Héritier Clever Massaka depuis Kikwit, les mêmes Ougandais avec qui la RDC a signé des accords militaires sont les mêmes Ougandais, Rwandais et Burundais qui sont en train de semer la terreur dans la partie orientale du pays. À mon humble avis, il faut une bonne rémunération pour que les militaires congolais fassent convenablement leur travail. Jean-Baptiste Kasekwa, votre conclusion.
D'abord, je demande la sanction de tous ceux-là qui ont détourné les fonds alloués à l'état des sièges et qui ont saboté systématiquement les opérations. Deuxièmement, je voudrais demander que l'on sanctionne les autorités responsables des tueries des manifestants, notamment à Ville de Beni, comme à Ville de Goma. Le meurtre de Ushindi, de Freddy Kambale et de Obadi ne doivent pas rester impunis, comme si l'état des sièges était un chèque à blanc pour que les autorités s'apprennent impunément aux paisibles citoyens. Enfin, il y a urgence que l'on procède à des réformes pour que la situation sécuritaire s'améliore et qu'en conséquence, la situation socio-économique à Oicha, à Beni, à Goma, à Nitori puisse s'améliorer par l'accès des populations à leur champ.
Merci Jean-Baptiste Kasekwa. Dialogue entre Congolais, c'est fini. Pour ce soir, merci à Guy Maté qui l'a réalisé. La supervision est assurée par Martha Sebouchangwe. Jean-Claude Siala était à la mise en onde. Présentation et coordination Kéline Kouté. Bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.